19h05, bienvenue aux amateurs de sport. Merci de choisir le réseau Cogeco. À venir dans la prochaine heure, on aura la chance de s'entretenir avec Jennifer Abel qui revient à peine de la Corée du Sud après ce championnat du monde de plongeon, évidemment, où elle a fracassé un record d'Alexandre Despatie. Elle sera avec nous aux alentours de 19h50. On aura la chance de parler également d'Éric Aucoin parce que c'était cérémonie d'intronisation au Temple de la Renommée à Cooperstown Baseball Majeur. Mariano Rivera, entre autres, qui a été intronisé. Éric a eu la chance d'aller du côté du Temple de la Renommée à Cooperstown, nous en parlera aux alentours de 19h30. Dave Lévesque sera là également pour nous parler de cette victoire de Shane Lowry, l'Irlandais au British Open en Irlande également. Et qu'est-ce que ça fait, un Irlandais qui gagne? Eh bien, ça va fêter dans un pub, c'est ce qu'il a fait. On s'en parlera, je vous parlerai de la vidéo qu'on a mise sur les réseaux sociaux de Shane Lowry, qui est extrêmement heureux avec son trophée du British Open. Pour l'instant, ben, parlons avec Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe!
Salut Jérémy!
Philippe, écoute, les Alouettes, c'est quoi ce club-là? C'est maintenant un club qui ne perd plus. 3 victoires de suite, 20 à 10 face aux Eskimos d'Edmonton. Sur le terrain, ça va bien. Côté administratif, des fois, c'est différent, disons.
Ouais, commençons par le terrain, Jérémy. Ça a été un match vraiment spectaculaire samedi, celui des Alouettes. Un jeu truqué pour le premier touché. Franchement, c'était complètement inattendu. Autant de créativité en attaque et réussir, faire le plan, mais le concrétiser et réussir un jeu aussi spectaculaire, je pense que ça a jeté véritablement le fun dans le stade. Et ça a donné une impulsion extraordinaire aux Alouettes. Un jeu renversé, le quart arrière qui attrape la passe de toucher. C'est inhabituel, c'est le fun, ça met énormément d'ambiance et de confiance. Et qui aurait pensé que les Alouettes pourraient remporter un troisième match de suite? C'était la première fois depuis 2016. Donc, les amateurs n'ont pas été gâtés au cours des dernières années, on le sait tous. Mais là, vraiment, il se passe quelque chose et c'est le fun de voir ça. L'équipe a bien joué. T'en parlais tantôt, tu disais que Carey Jones, et je suis assez d'accord avec ta lecture des faits, c'est clair qu'à l'heure actuelle, je comprends qu'il est encore tôt, mais il est le meilleur entraîneur des Alouettes qu'on a vu depuis longtemps. Remarque que je continue à trouver qu'on n'a peut-être pas donné une chance suffisante à Jacques Abdelaine à l'époque, mais il en reste pas moins qui fait le travail et c'est vraiment beau de voir ça et c'est le fun de voir que les Alouettes sur le terrain, ça va bien.
OK, à l'extérieur du terrain maintenant.
Ça, c'est une autre chose. Tu sais, je regarde tout ce qui s'est passé avec le congédiement de Kavis Reid. Je comprends que la direction de l'équipe a donné une conférence de presse, le président Patrick Boivin, puis qui a répondu aux questions ce jour-là. Mais moi, je trouve qu'on est véritablement là en manque de transparence. Aujourd'hui, une organisation sportive doit, à mon avis, communiquer mieux avec ses partisans, mieux avec les journalistes. Il y a toutes sortes de rumeurs à propos de Kavis Reid, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce congédiement-là. La direction de l'équipe se cachant derrière des raisons légales, qui me semblent quand même un peu obscures, là, préfère ne pas parler, ne rien dire et laisser aller un peu les choses comme celle-là. C'est clair que là, les victoires favorisent la direction, justement, parce que on parle plus de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe à l'extérieur. Mais pour moi, cette affaire-là, j'ai pas été tellement impressionné par la manière dont ça a été géré. Je pense que le président de l'équipe, Patrick Boivin, aurait dû revenir au cours de la semaine dernière et puis répondre un peu davantage aux questions. Je sais qu'il l'a fait en fin de semaine avant le match, là, qui était à la radio, mais encore une fois, il n'est pas allé vraiment dans les détails. Et ça m'agace d'autant plus que je trouve que là, ça s'inscrit dans une tendance qu'on voit autour des Alouettes. C'est pas simplement la direction de l'équipe, mais c'est la direction de la Ligue. Tout semble des secrets. Et tu sais, toute cette saga autour de qui sera propriétaire de l'équipe, le départ des Wettenhall, ça a été une rumeur pendant longtemps. Les Wettenhall vont s'en aller. Tout à coup, bang, un communiqué qui confirme ça, mais il n'y a pas eu d'explication plus cohérente. Les Wettenhall eux-mêmes ne se sont pas exprimés. La direction de l'équipe non plus. Un bref communiqué. Là, après ça, c'est l'enfilade des propriétaires potentiels. Puis ça va être lui, puis ça pourrait être lui. Encore une fois, la Ligue n'a jamais fait le point. La direction de l'équipe n'a jamais fait le point. Là, on a un propriétaire potentiel, les frères Lenkov. Je disais, je ne sais pas si tu as vu sur Twitter le commentaire de notre collègue Didier Mézius, qui disait qu'il y avait un des frères Lenkov qui, après le match de samedi, est allé dans le vestiaire, puis il félicitait les joueurs comme si l'équipe était déjà à lui. Tu sais, c'est quoi ça? Est-ce qu'il est oui ou non propriétaire de l'équipe? S'il n'est pas propriétaire de l'équipe, qu'est-ce qu'il fait là au juste? Puis la Ligue, quand est-ce qu'elle va donner l'heure juste aux partisans de l'équipe? Je trouve qu'on laisse les gens comme ça. Écoutez, là, c'est une équipe, vous avez une équipe de football, vous autres, là, continuez d'applaudir là, sur le terrain, encourager les joueurs, puis nous autres, en arrière, on va vous régler ça. Là, je trouve que ça fait un peu les grandes personnes en arrière, là, puis quand ça va être prêt, là, on va vous annoncer ça.
Exactement.
Moi, je trouve ça déplorable. Honnêtement, je trouve ça déplorable.
Je suis d'accord avec toi, et t'oublies de rajouter que dans le commentaire de Dion Méjus, il disait que les joueurs auditoires ne savaient pas c'était qui était là dans le vestiaire. Oui. Et surtout que ça a créé tout un malaise en disant « Qu'est-ce que tu fais ici et qui es-tu? »
Ben, voilà. Alors, ça, comment la Ligue peut autoriser ça? Comment la direction des Alouettes peut autoriser ça? Tu comprends pas?
C'est broche à foin, Philippe. C'est broche à foin ce qui se passe présentement. C'est mal géré dans cette transition vers des nouveaux propriétaires. Et d'autant plus, comme tu le mentionnes, je pense que la victoire vient mettre un bombe là-dessus. Pendant ce temps-là, on demande à tous les partisans d'être fidèles à l'équipe, de s'impliquer, d'aller là, d'apprécier le spectacle. Et je le dis, le spectacle est vraiment, franchement, meilleur. Mais on laisse tout le monde dans une bulle d'incertitude totale et complète. Et on espère que le monde... On est quoi? On est dupes, nous? On peut pas poser de questions?
Voilà, exactement. Et ça, moi, je trouve ça regrettable. Et les Alouettes, bon, ce sont les Alouettes, c'est sûr que c'est pas le Canadien, mais il y aurait une tempête si le Canadien ou la Ligue nationale de hockey se comportait comme ça à l'endroit de la concession
montréalaise. Non, mais imagine-toi, on congédie le directeur général pour faute administrative, comme il le fait, on dit dans un point de presse, et on va pas plus loin. Tu sais, ça n'a aucun bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens.
Surtout, puis ça vient après, justement, tout ce feuilleton autour de la vente ou de la... En fait, l'équipe a manifestement été à quelque part. Elle a été vendue à la Ligue ou la Ligue en a pris le contrôle. Mais encore une fois, c'est quoi exactement la transaction? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps ça peut durer? Est-ce que la Ligue a mis une limite de temps? Pourquoi on négocie pas avec d'autres personnes qui se disent toujours intéressées à acheter l'équipe? Pourquoi, à l'heure actuelle, c'est uniquement avec les frères Lenkov? Pourquoi un des frères Lenkov est dans le vestiaire alors qu'il n'a pas acheté l'équipe? Pourquoi le président de l'équipe a ça? Pourquoi la Ligue ne donne pas plus de renseignements aux gens? C'est leur équipe, après tout. Je trouve vraiment que c'est assez ordinaire. Merci.
Bon, on va espérer des victoires parce que ça, au moins, ça met un petit bombe, un petit pansement
sur les plaies. C'est le fun. Le spectacle a été bon. Samedi, moi, j'ai écouté presque tout le match, puis j'ai été emballé parce que j'ai vu. C'était vraiment un très bon show. Alors, bravo de ce côté-là, mais ce n'est pas tout.
Ah non, clairement. Bon, parlant d'un bon show, Shane Lowry dans un pub irlandais. Je sais pas si tu as vu les images.
Non, j'ai vu. Raconte-moi ça, okay. T'en raconter une autre de la famille.
Écoute, le European, c'est pas facile à dire, le tour européen, je vais le dire en français, ça va être plus facile. Donc, mets un vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où on voit Shane Lowry dans un pub, debout sur une table avec un Ben irlandais. Tout le monde est là, bière à la main. Et là, Lowry chante avec le trophée du British Open dans les mains. Tu sais, c'est le cas typique de l'Irlandais heureux, de la famille irlandaise. Tout le monde, c'était tellement beau à voir. Ça fait du bien au sport de voir des choses comme ça.
Ben oui. Puis sa grand-mère, j'ai vu passer un message Twitter, là, sa grand-mère qui a dit qu'elle avait pas pris de brandy depuis des années, elle a pris deux verres, puis que la tête est en train de lui tourner. Mais bon, elle a fêté, puis c'est très bien. C'était émouvant de voir Shane Lowry remporter ce tournoi-là. Je me suis tapé à la télévision, Jérémy, crois-le ou pas, 5 heures de golf samedi, 5 heures de golf dimanche. J'aime vraiment ça, les tournois majeurs. Et Lowry est un beau gagnant. J'ai été ému quand, à la fin du tournoi, à la présentation de la Claret Jug, la cruche Jug, la cruche Claret, pardon, il est devenu très ému, puis il a remercié ses parents, puis des fois, ça peut peut-être avoir l'air un peu cliché, mais c'était tellement beau, il a arrêté de parler, les gens ont applaudi pour masquer un peu ce moment d'émotion ou le souligner à leur façon, mais c'était vraiment très, très sympathique, et c'est un gagnant méritoire, puis tu sais, c'est extraordinaire gagner un tournoi majeur, parce que tu regardes le nombre de joueurs qui sont plus connus que Shane Lowry, puis qui sont toujours à la recherche d'un premier, un premier gain en tournoi majeur. Je pense à Ricky Fowler, à Tommy Fleetwood, à Paul Casey, à Matsumaya, Hideki Matsumaya, le japonais. Tu sais, il y a beaucoup d'excellents golfeurs qui n'ont toujours pas remporté de majeur. Et lui, il arrive à 32 ans et il a gagné ça de façon extraordinaire. Et je veux juste te raconter un trou, parce que pour moi, dimanche, ça s'est joué là. Il commence avec 4 coup d'avance au dernier trou contre son adversaire, son tempère. Puis son adversaire le plus proche de lui, c'est Tommy Fleetwood. Puis il fait pas très beau. Ça va devenir pire au fil de la journée, mais il vente. Puis peut-être qu'il mouillasse un petit peu. Puis les conditions sont pas extraordinaires. Puis lui, il a toute une ovation, Shane Lowry, avant de réaliser son premier coup de départ. Mais on le sent qu'il est nerveux. Et puis il rate plus ou moins son premier coup. Puis finalement, il s'en tire avec un bogey, avec un beau putt pour sauver un bogey. Puis pendant ce temps-là, Fleetwood a raté un putt très faisable pour un birdie. S'il l'avait fait, il aurait pris deux coups dès le premier trou. Et je pense que là, l'avance de Lowry aurait été réduite de moitié. Je pense que ça aurait fait réfléchir davantage Lowry. Mais il n'en a pas. Fleetwood n'a pas su en profiter assez. Il a seulement pris un coup. Deuxième trou, Fleetwood a encore une occasion de birdie. Il la rate. Et là, on dirait que quand Lowry a réalisé que son plus proche rival n'était pas capable de prendre avantage de son début un peu moins convaincant, ça lui a redonné confiance. Puis à partir de là, il a été absolument impérial.
Quand même, trois rondes spectaculaires. La première, samedi, 67. Là. La deuxième, 67. Ouais. La troisième, celle de samedi, 63.
Samedi, c'était incroyable. C'était dans un golfeur dans un état de grâce. Puis c'est là que tu vois, on le répète souvent quand on joue au golf, puis les gens qui tout le monde le sait, le putting, c'est ça qui fait la différence. Puis tu as vu, le samedi, il potait comme un démon, c'était extraordinaire. Puis pendant ce temps-là, Brooks Koepka, qui est probablement le meilleur joueur à l'heure actuelle, qui a très bien joué, qui frappait la balle de façon exceptionnelle, il n'y a pas un pote qui rentrait. En bas de... Il rentrait, bon, ceux de 2 pieds, 3 pieds, mais il n'y a aucun coup roulé significatif pour un birdie de 10 pieds et plus qui est rentré. Et lui-même, après la troisième ronde, Koepka, il a été un petit peu arrogant. Il a dit, c'est moi qui frappe le mieux la balle dans ce tournoi-là. Il a dit, suffit que je retrouve mon putting, puis tu sais, vous allez voir ce que vous allez voir. Là, c'est à peu près ça que ça voulait dire. Avec son regard de feu un peu, puis tu sais, il a sur un ton, il est assez intimidant, Brooks Koepka, mais il n'a pas retrouvé son habileté sur les verres dimanche, et c'est ça qui a fait la différence, encore une fois. C'est vraiment, les gars frappent tous très bien la balle. Oui, une fois de temps en temps, ils vont faire une erreur, mais quand ils commencent à rater des coups roulés, puis que les birdies ne tombent pas, c'est là qu'ils deviennent un peu impatients, mm-hmm. puis c'est là qu'ils commencent à faire des erreurs sur des coups de départ, sur des coups d'approche, et puis là, c'est comme un effet de cascade qui se produit. Alors, c'est un peu ça qui s'est produit avec plusieurs des rivaux de Shane Lowry. Mais lui, il a eu des nerfs d'acier. Il a gagné devant ses partisans en Irlande avec son cadet. Son cadet qui, disait-on au reportage à la télévision, est lui-même un joueur de premier plan. Il est champion d'un club qui n'est pas loin de là, champion golfeur amateur de son club. Donc, un bon golfeur aussi qui connaissait magnifiquement le parcours. Alors, les deux ensemble, ils étaient très sympathiques.
Ouais, ben pour Brooks, juste à dire, Koepka, là, bienvenue dans le club de ne pas être capable de faire des potes. C'est ma vie, ça. C'est,
ouais.
Un coup, c'est ça. Mais sauf que je ne frappe pas aussi bien que lui dans les années.
Ouais, c'est la petite différence.
Ouais. Parlons de l'impact maintenant. C'est un passage difficile sur le terrain. 4 défaites de suite. Là, on sent la panique arrive aujourd'hui. Joey Saputo sur le bord du terrain. Bon. Puis ça s'en vient.
C'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça.
Il va avoir une bombe nucléaire dans pas long, c'est sûr.
Ben, tu sais, écoute, j'écoutais Jérémy Arcadio à l'ouverture du show, Jérémy. Puis quand j'ai appris ça, là, que Joey Saputo était sur le bord du terrain avec Kevin Gilmore, les deux qui sont là, habillés en complet cravate, j'ai bien compris.
Exact.
Tu te demandes, tu te dis, coudonc, quand ils se sont levés ce matin-là, quel message ont-ils voulu envoyer à leur entraîneur? Imagine, mets-toi dans la peau de Rémi Garde, là, ça va mal. Là, il arrive ce matin, il a dû arriver tôt au bureau, commencer à préparer son plan d'entraînement et tout. Puis là, il arrive, là, puis il s'aperçoit que son président, son propriétaire, le propriétaire de l'équipe, celui qui théoriquement s'est distancé de l'équipe pour laisser toute la place à Kevin Gilmore, hein, c'est comme ça qu'on nous a présenté les choses, là. C'était vraiment maintenant Gilmore qui allait diriger ça. Eh bien, le propriétaire est là sur le bord du terrain, et puis Kevin Gilmore, son président, qui s'occupe d'abord et avant tout d'administration, est là. Alors, qu'est-ce que Gilmore a pensé de la présence de Saputo, puis qu'est-ce que Rémi Garde a pensé de la présence de Gilmore et Saputo? Et les joueurs, qu'ont-ils pensé de ça aussi? Si t'es joueur, tu dis ça, tu dis, coudonc, propriétaire, le président de l'équipe, a une pratique tôt le matin, un lundi matin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va justement avoir des annonces spectaculaires qui vont être faites? Alors, je comprends pas trop quel est le message, je comprends pas le but de cette présence-là sur le terrain de ces deux hommes-là. Manifestement, ils avaient un plan, ils ont un plan, c'est des gens occupés, là. Je pense pas qu'ils sont simplement allés là pour le plaisir du soccer. Je trouve ça un peu bizarre, et je me mets dans la peau de Rémi Garde ce soir, là, en me couchant, je me poserai un petit peu de questions.
Mais, tu sais, il faut que tu poses la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? T'as-tu vraiment besoin de rajouter une couche de pression par-dessus ce qui est déjà en place?
Non,
honnêtement, non. Là.
Ben, c'est sûr que non. Puis, tu sais, l'impact, là, c'est pas mystérieux ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est la même chose dans tous les sports collectifs professionnels. Perds ton meilleur joueur. Tu peux le remplacer pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, mais tu peux pas le remplacer pendant 3 mois. Tu peux pas faire la différence. Alors, le jour où l'Impact a perdu Piatti, ils ont tenu le fort, les autres joueurs, puis l'entraîneur, puis tout le monde a puisé un petit peu plus au fond de ses ressources. Puis là, ils ont tenu, puis ils ont réussi à s'accrocher, puis gagner quelques matchs, puis aller chercher des points. Mais vient un temps où tu ne peux plus faire ça sans ton meilleur joueur. Tu sais, n'importe quelle équipe, c'est comme ça. Regarde, tu sais, je sais que quand on parle de de soccer. Souvent, les gens n'aiment pas qu'on parle de hockey, mais c'est ça dans tous les sports collectifs. Perds ton corps arrière au football. T'as beau avoir une bonne équipe, tu peux peut-être remplacer ton corps arrière par un substitut pendant un match ou deux, mais c'est pas vrai que tu vas le remplacer avec autant de succès pendant 6 ou 7 matchs. Perd le Canadien, perd son gardien de but numéro 1. On l'a vu dans le passé.
On sait ce que ça fait.
Voilà. Alors, l'impact n'est pas différent. Ouais. Tu perds ton attaquant de pointe, ton gros salarié, le leader de ton équipe, le capitaine. Ben, c'est ça qui arrive. Alors, tu sais, je trouve qu'on en demande beaucoup, à l'impact à l'heure actuelle. Cela dit, oui, il y a des manques. L'ambiance n'a pas l'air d'être très bonne à l'heure actuelle. Tout le monde est impatient. Mais il en reste pas moins que quand tu n'as pas ton meilleur joueur, c'est un peu inévitable que ça se passe comme ça.
Mais Philippe, si on a parlé souvent du côté de l'impact, des fois que c'est pas toujours avec guichet fermé puis qu'il y a des bancs vides, je pense que c'est pas la seule équipe qui a de la misère du côté de la MLS. Là.
Non, tu sais, je regardais le match à la télé de samedi de l'impact à Columbus. On a annoncé une foule de 15 000 personnes, Jérémy. Je ne sais pas si tu as vu les gradins, mais en tout cas, s'il y avait 15 000 personnes là, il y en a qui devaient être allés chercher un hot dog quand ils ont montré les gradins, parce qu'il n'y avait pas l'air d'en avoir 15 000. Tu vois qu'il y a des équipes qui ont des difficultés. À Chicago, ça va de façon très ordinaire, les assistances. En Nouvelle-Angleterre, à Boston, finalement, ou en banlieue de Boston, c'est très ordinaire aussi. Puis, tu sais, tu as beaucoup d'équipes qui attirent encore en plein mois de juillet, un peu comme l'Impact, des 17 000 personnes puis des 15 000 personnes. Alors, l'impact se situe un peu... moi, je pense que ça devrait être mieux que ça parce que les objectifs de l'équipe sont plus élevés. Puis c'est vrai que tu as des équipes qui attirent... Seattle, il y avait 50 000 personnes en fin de semaine. Atlanta, il y en avait 44 000, 25 000 à Cincinnati, 22 000 à Orlando au cours des derniers jours. Mais tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes en Major League Soccer qui sont à 17 500 spectateurs et moins en des matchs-là, en plein été, quand les enfants sont en vacances. Exact. Ça peut être une belle sortie familiale. C'est le fun, il fait beau, t'as pas froid, c'est le temps d'aller au soccer. Mais ça que Major League Soccer, oui, ils ont l'expansion, oui, ils ont de meilleurs revenus, mais ils ont encore de la misère à consolider les foules dans plusieurs marchés.
Comme quoi, des fois, avant de critiquer, il faut regarder un peu ce qui se passe au travers la Ligue.
Oui, c'est vrai, Philippe. C'est vrai. Mais d'un autre côté, n'oublions pas que l'Impact a des objectifs clairs et de ce côté-là, ils ne les atteignent pas.
Toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Philippe.
Salut, Jérémy.
Merci, on s'arrête quelques instants. Retour Shane Lowry qui gagne avec panache en terre natale lors du British Open. Le professionnel du club de golf Château-Bromont. Dave Lévesque est avec nous au retour.